Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Claude Schmitz pour parler de L'autre Lorenz, qui a été présenté ici à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, à la quinzaine des cinéastes. Bonjour Claude.
Bonjour.
Ça va pas mal, surtout que votre film, je me suis marré tout du long, à tout. Il est difficile à décrire, je crois pas qu'un synopsis puisse lui rendre justice. Je serais curieuse de savoir comment vous le pitchiez.
Ah bah je pitch, moi je suis un très mauvais pitcher, mais bon je vais quand même essayer. Donc voilà, c'est l'histoire d'un détective privé qui va en compagnie de sa nièce enquêter sur la mort de son frère jumeau qui est donc le père de cette jeune fille qui s'appelle Jade. Donc ça c'est le pitch, hein, on va dire. Après voilà, il se passe plein de trucs. Ils vont partir dans le sud-ouest de la France, à la frontière espagnole, et vont être confrontés à, comment dire, des personnages qui semblent sortis de films de série B ou de films de films noirs. Des figures archétypales, on va retrouver des bikers, des trafiquants de drogue espagnols, une femme fatale américaine, un Marines américain, enfin voilà, tout un tas de personnages comme ça qu'on a déjà vu dans tout un tas de films que j'ai rassemblés sur une sorte de territoire réel et imaginaire à la fois, voilà.
Justement, quand vous écrivez ça, est-ce que vous procédez par adjonction, c'est-à-dire qu'à partir de cette sorte de trame, vous ajoutez ces personnages haut en couleur, ou est-ce que, un peu comme Georges Perec, un peu de manière Oulipo, vous avez déjà tous les personnages que vous avez envie d'y mettre, et après vous trouvez la trame intéressante qui va vous permettre d'avoir un prétexte?
Ah, c'est peut-être un peu des deux en fait, hein, mais c'est-à-dire que je pense que j'avais... Je sais plus très bien comment j'ai procédé, honnêtement. Je suis pas sûr que j'avais fait des listes ou, mais en tout cas, ouais, il y avait comme ça des espèces de figures un peu archétypales que j'avais envie d'amener dans ce film, et puis aussi des personnages qui viendraient de cultures différentes, quoi. Les Américains, les Espagnols, les gens parlent dans leur langue, les Français, les Belges. Et c'est ça. Et en fait, l'idée c'était plutôt de créer une sorte de récit qui soit un peu baroque, c'est-à-dire quelque chose où en fait il y a un film qui n'arrête pas de muter, qui n'arrête pas de se transformer au fur et à mesure de son développement, quoi. Donc c'est un objet hybride, étrange.
Absolument. Et d'ailleurs, on passe de scènes très statiques. Et d'ailleurs, chaque scène pourrait même à elle seule, en quelque sorte, valoir seule. Elles sont toutes hilarantes. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs parfois qui sont très série B, très statiques. Et même un moment d'ailleurs où carrément le personnage sort du champ et la caméra reste encore. Je sais plus dans quelle scène. Et puis bon, on est mobile parfois. Après, c'est un peu western parce qu'on est à une frontière un peu espagnole. Donc parfois, on est beaucoup en voiture aussi. Donc il y a comme ça une alternance aussi de même visuellement, l'image change de couleur, change de grain, elle change de.
Oui, ben voilà, c'est ça. Donc le... Enfin, j'ai quand même pas mal réfléchi à cette histoire de encore une fois, de film qui mélange les genres, qui mélange les codes, qui n'arrête pas de muter, et qui, en fait, au final, et je crois une sorte de rêve éveillé, quoi, une sorte de conte. D'ailleurs, il y a un conte qui est raconté dans le film, c'est un conte dans le conte, et pour moi, c'est quand même l'histoire d'un personnage... j'ai envie de dire que le protagoniste de l'histoire c'est le détective privé, mais le personnage central c'est quand même cette jeune fille Jade, qui est comme une sorte de une fille qui est enfermée dans un monde patriarcal en fait, avec toutes des figures vieillissantes en fait, d'un monde un peu ancien des années 80 presque. Elles semblent toutes un peu avoir été ce genre de personnages qu'on a vu dans tout un tas de films jusqu'à une certaine époque. Et c'est ce personnage de féminin va s'extraire de ce monde qui est en train de s'effondrer, quoi. Et donc, pour donner cette qualité particulière, je voulais que c'est donc soit une sorte de rêve. Et donc, le film change au niveau de son esthétique au fur et à mesure de son développement. Les lumières sont de plus en plus présentes. Ça devient un film nocturne, très éclairé. Enfin voilà. Donc il y a tout un... Ouais, voilà, c'est un film qui, à mon avis, peut dérouter, je pense. Mais j'aime bien l'idée de dérouter. C'est pas forcément mal de se trouver sur le bord de la route. À des moments, on peut voir d'autres choses, quoi.
Oui, mais c'est pas mal de larguer les amarres. Surtout que, effectivement, je disais que je riais beaucoup. Moi, j'ai vu ça comme un enchaînement. Et c'est vraiment un compliment, hein, un enchaînement de pastiches. Effectivement, il y a aussi ça, on peut peut-être en reparler un petit peu, des gros bonshommes ridicules qui sont tout à fait caricaturaux. Alors, mention spéciale à l'américain. Son petit discours là au dîner, incroyable, mais c'est vraiment ils sont quintessentiels, quoi. C'est pour ça que c'est génial, ils sont plus caricaturaux que les caricatures.
Oui, c'est ça. Mais moi, ça m'amusait beaucoup de jouer avec ces figures là et puis de les pousser à un certain de leur donner une sorte de ouais, d'essence, enfin comme vous disiez, et de faire en sorte que oui, quand l'américain débarque, c'est l'américain, quand les espagnols débarquent, c'est les espagnols, enfin vraiment c'est des idées, c'est presque des clichés, quoi. Mais tout ça est au service de cette fable, de ce conte, quoi, c'est-à-dire de ce monde qui est en train de s'effondrer, comme les tours du 11 septembre qui sont évoquées dans le film et qui s'effondrent. Ben voilà, c'est un système de représentation du monde qui s'écroule et dans lequel cette jeune fille va trouver un échappatoire, on va dire.
Oui, et d'ailleurs je voudrais qu'on y revienne, mais puisque vous parliez des langues et que je suis assez polyglotte et j'aime bien ça, une des premières choses que j'ai remarqué, c'est que là où chaque langue, en fait, les Espagnols sont super, enfin il y a un plaisir, en fait, il y a un plaisir du texte, il y a un plaisir des accents. Aussi, donc quand je parlais de ta caricature, il y a aussi ça, vous y allez à fond dans chacune de ces représentations linguistiques.
Moi j'adore ça, en fait, j'adore travailler avec des gens qui ont des imaginaires différents, des référents culturels communs, mais qui sont portés par des gens qui ont des singularités locales, on va dire même. Ça m'intéresse profondément. Les bikers, par exemple, qui sont dans le film, sont des bikers du Sud-Ouest. C'est une vraie bande de bikers dans la vie. L'américain, il est à la base, c'est un cascadeur avant d'être acteur. Les deux policiers sont joués par Rodolphe Burger et Francis Soutens, qui sont pas véritablement acteurs de formation. Rodolphe est chanteur de rock et Francis a commencé à faire des films avec moi sur le tard, quoi, mais il n'était pas acteur à la base. Et donc, en fait, toutes ces différents types de textures d'acteurs, pour moi, amènent encore une fois des contrastes, des contrepoints, des textures différentes, quoi.
Ouais. Est-ce que c'était aussi un peu l'idée que voulait contenir le titre, enfin on a quand même deux jumeaux et l'autre Laurence, on se dit voilà, est-ce que ce serait une histoire de miroir mis face à sa déformation, quelque chose comme ça?
Oui, c'est une histoire de faux semblant, voilà, de miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'en fait tout est double un peu dans le film, mais tout est un peu faux, en fait tout est vrai et faux à la fois. Ouais. C'est-à-dire par exemple la Maison Blanche qui est une Maison Blanche qui existe en France, c'est une et le modèle original qui a servi à construire la Maison Blanche de Washington, le désert dans lequel il se crache à la fin est en Espagne, mais c'est un désert qui a servi pour faire des films de Western Spaghetti et qui ressemble fort au Grand Canyon. La frontière espagnole dans le film est traitée comme une sorte de frontière mexicaine. Donc voilà, c'est tout un tas de, il y a tout un tas de référents à l'imaginaire américain. Il y a cette espèce d'effet de miroir qu'il y a toujours entre ces deux cultures, la culture européenne, on va dire, et même française plus particulièrement, et cette culture américaine, qui sont complètement schizophrènes et intrinsèquement liées, et qui créent une sorte de monde un peu hybride, étrange, Voilà, on crée une sorte de tension, quoi, entre ces deux cultures. Voilà.
S'il y a un fil rouge tout de même, plus que l'intrigue, pour moi, c'est vraiment la relation entre Gabriel, donc qui est joué par Olivera Bourdin, qui est l'un des deux jumeaux, qui est celui qui enquête sur la mort, enfin du moins la disparition de l'autre, qui l'incarnera aussi, enfin évidemment, et Jade, qui est vraiment une petite poupée. Et effectivement, elle est moderne et elle a une autre manière de porter cette féminité. Qu'à un moment donné, Gabriel, son ange gardien, c'est lui en fait son ange gardien, c'est pas le motard qui la suit partout. Lui fait quand même un discours dont je sais pas quelle conclusion tirer du discours. Tu t'habilles vraiment comme une pute, qui lui fait, qui est très drôle aussi. Hein.
Bah, Non, mais moi, ce que je voulais raconter, c'était que... alors, je vais pas cautionner ce discours, évidemment. C'est-à-dire que je peux faire dire des choses à un personnage que je trouve horrible. Et en fait, en réalité, ce qui m'intéressait, c'était encore une fois de... Il s'agit quand même d'une jeune fille qui, dans une temporalité très étrange, qui ressemble à la temporalité d'un rêve, va... être complètement saoulé à un moment de cette figure patriarcale qui l'entoure, en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, elle est entourée que de bikers qui la chaperonnent, il y a la figure de son père, qui est tout le temps présente, et elle va chercher un père de substitution, quelque part, en la figure de son oncle. Et quelque part, ce personnage-là va lui-même devenir, en fait, comme son père, en fait. Il va devenir même la réplique exacte. Et en fait, c'est comme pour dire que, en fait, à un moment, pour sortir de ce monde patriarcal, il faut juste couper, en fait, il faut le tuer, quoi. Et c'est ce qu'elle fait. Enfin, c'est ce qu'elle fait, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce monde s'autodétruit autour d'elle, et elle parvient à sortir de cette espèce de cauchemar patriarcal, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, le personnage de Gabriel, par exemple, évolue au fur et à mesure du film. Et quand il commence à tenir ce discours-là, pour moi, c'est, pour moi, le signal très clair que, oui, il fait partie d'un ancien monde qui n'a pas compris en fait que le rapport, les femmes ont leur propre autonomie, indépendance, et cette jeune fille le comprend au fur et à mesure de l'histoire et sans défait, quoi.
Ah ouais, complètement. Je peux pas ne pas mentionner la musique en dernière question parce que elle est superbe et vraiment elle a le même humour et le même, elle accompagne vraiment bien le rythme de votre pensée.
Tout à fait. Moi, j'ai travaillé avec Thomas Turin, qui est un ami et compositeur avec qui on travaille depuis 20 ans ensemble. Et effectivement, il a fait une bande son qui est absolument, je trouve magnifique. Et on a travaillé avec, pareil aussi, en voulant créer des contrastes, proposer des textures différentes. C'est-à-dire, en réalité, il y a de la flûte de Pan, il y a une réinterprétation d'un concerto de Jean-Sébastien Bach, il y a un morceau péruvien à un moment dedans, il y a aussi des choses beaucoup plus atmosphériques, étranges, synthétiques. On a voulu créer en fait une bande son qui, à l'image du film, propose des textures différentes et effectivement par contraste, parfois de l'humour ou un décalage, une étrangeté. Voilà, tout ça.
Parcours de tout le cinéma, hein. Et on pense un petit peu à Morricone, c'est pour ça que je parlais de l'humour, parce que ces instruments comme ça qui surviennent, il y a un peu de Morricone là-dedans.
Ouais, tout à fait. Mais moi j'adore Morricone, donc oui, bien sûr, on en a parlé régulièrement. Mais voilà, mais comme le film passe mute d'un genre vers l'autre, en passant de la comédie parfois vers le drame, on est dans un film noir et puis ça devient une sorte de série B d'action. Enfin, tout ça, en fait, forme ensemble, ça c'était le projet, je pense, pour moi, d'un objet baroque. Ouais. Et en ce sens-là, c'est quelque chose que, pour moi, qui est important à défendre comme type d'idée dans le cinéma. C'est-à-dire que, en fait, souvent, les films proposent une tonalité et, en fait, s'y tiennent jusqu'au bout. Ce qui est très, je n'ai rien contre. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les ruptures de style, c'est les changements, c'est tout ce qui fait qu'on comprend que ce qui nous est donné à voir n'est pas à prendre au premier degré, mais que on est en train de nous raconter une histoire avec tous les artifices que ça peut, tous les artifices qu'elle peut utiliser. Et je terminerai là-dessus en disant juste que, pour moi, la vraie influence de ce film, la vraie référence, enfin le vivier qui m'a permis d'écrire cette histoire, parce que c'était la première question, je crois, une des premières, mais... on boucle la boucle. C'était c'est Shakespeare, qui pour moi est vraiment le... Je viens du théâtre, hein, donc je fais du théâtre depuis 20 ans, mais... Et pour moi, Shakespeare est vraiment le vivier de toutes les histoires. Et ce qui est magnifique chez Shakespeare, c'est qu'on prend n'importe quelle pièce de Shakespeare, dans la même pièce, à l'intérieur de la même histoire... Le grotesque, on passe du grotesque au tragique, du burlesque au drame. Et c'est typiquement baroque, c'est-à-dire bref, c'est d'époque, mais cette façon comme ça de pouvoir passer d'une scène complètement bouffonne à quelque chose d'extrêmement dramatique, pour moi est très important parce qu'elle amène des contrepoints, elle amène des distorsions dans l'histoire et elle nous faut comprendre qu'on est toujours en train de nous raconter en fait l'humanité, quoi, comment le monde va. comme disait Shakespeare, le théâtre, la vie est un théâtre et nous sommes sur une scène de théâtre sur laquelle nous faisons passer quelque chose de cet ordre-là, je ne sais plus. Mais life is a stage, je crois que c'est ça. Enfin, un truc comme ça. And we are players, je crois que c'est ça. Véritablement, je crois que c'est ce type de récit-là qui m'intéresse profondément, quoi. C'est-à-dire, en fait, par exemple, en musique, il y a un musicien qui m'intéresse particulièrement, c'est Frank Zappa. Bon, alors, mais pareil, hein, je crois que c'est un musicien qui déroute souvent parce que les gens parfois trouvent ça trop intellectuel, mais pourtant ça l'est pas, je pense. Mais c'est quelqu'un qui voilà passe dans une chanson, il peut passer du reggae à la pop au hard rock. Sans complexe, quoi. Et je trouve que j'aime ces recherches-là, ces expérimentations-là, quoi.
Mais c'est effectivement un foisonnement qui produit des effets de décalage, qui déplace un peu et qui font que c'est un film vraiment très très plaisant à voir, hyper riche. Merci beaucoup Claude Schmitt d'avoir fait L'autre Lorenz et de nous en avoir parlé. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.